Pierre-Antoine Denet, bonjour.
Bonjour.
Dans votre livre, vous dénoncez un état catastrophique de l'économie chinoise. Vous comparez la Chine de Xi Jinping à celle de Mao, quand le pays donnait l'illusion d'une bonne santé économique. Qu'est-ce qui vous permet de soutenir cette comparaison aujourd'hui ?
Eh bien, c'est très simple. C'est que bien avant Xi Jinping, déjà, le régime chinois lançait des signaux vers le monde en disant que vous tous, les hommes d'affaires, venez chez nous, c'est là où vous allez faire des affaires. La Chine est un Eldorado pour les investisseurs étrangers et tout particulièrement ceux qui viennent de l'Occident. Alors, bien sûr, le motto est resté le même, mais il s'est accentué depuis l'arrivée au pouvoir de Xi Jinping en 2012 parce que le régime a essayé de convaincre partout dans le monde que la Chine allait bientôt devenir la première puissance économique du monde. C'était, et c'est toujours, de la poudre aux yeux parce que, d'une part, l'économie chinoise est en train de régresser de façon absolument spectaculaire, mais aussi cette baisse de la croissance du PIB chinois génère un début d'instabilité sociale. L'obsession de Xi Jinping, c'est la stabilité politique qui elle-même dépend de la stabilité sociale. Les statistiques officielles disent qu'il y a à peu près 23% de jeunes au chômage, mais là aussi c'est une illusion dans la mesure où le vrai chiffre, d'ailleurs il a été annoncé par une économiste chinoise que depuis d'ailleurs ne parle plus, on voit bien pourquoi, qui disait que le taux réel, il est double. Ça veut dire qu'un jeune chinois sur deux aujourd'hui n'a pas de travail. Ces jeunes participaient tous à faire en sorte que leurs aînés, leurs parents, leurs grands-parents, du fait qu'ils n'ont pas vraiment de retraite, puissent continuer à assurer leurs propres besoins. Et aujourd'hui, il n'y a plus d'argent. Et c'est absolument inédit, justement, depuis la fin de l'ère du maoïsme.
Pierre-Antoine Denet, comment définir votre démarche ? Votre ouvrage, Chine, l'empire des illusions, suit d'autres de vos livres, Chine, le grand prédateur, puis le dossier chinois, portrait d'un pays au bord de l'abîme. Certains vous accusent de China bashing, l'expression anglaise pour dire critique systématique de la Chine. C'est toute la question de l'objectivité quand on est un observateur de longue haleine de ce pays, comme vous l'êtes. Que leur répondez-vous ?
Ben écoutez, d'abord, je voudrais dire d'entrée de jeu que non seulement ce n'est pas de ma part du China bashing, mais au contraire, je suis depuis très 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 longtemps un amoureux réel de la Chine. J'aime la Chine, j'aime les habitants de ce pays qui est extraordinaire, ou plutôt qui était extraordinaire. Et pourquoi en venir à ce titre aujourd'hui ? C'est que tout simplement, je constate que la situation à l'intérieur du pays devient absolument dramatique au point qu'on peut se poser la question de son avenir. Et son avenir, à court terme, il est vraiment plutôt noir. Et là encore, je ne pense pas que je force le trait. C'est simplement étudier, voir quel est l'état de l'économie, quel est l'état de la société chinoise et quelle est l'accentuation constante de la surveillance de la population. Une surveillance, mais qui est orwellienne. C'est-à-dire qu'il y a maintenant 700 millions de caméras à reconnaissance faciale. Ça devient irrespirable. Mon objectif, il est simple. C'est de faire prendre conscience à mes lecteurs du fait que la Chine d'aujourd'hui n'est pas celle qu'ils croient qu'elle est encore. Et il y a une sorte de mirage qui a longtemps régné dans les esprits des Occidentaux. Il y a de la part notamment des Français et justement plus particulièrement des Français, une sorte de romantisme sur la Chine que je peux comprendre tout à fait. Il était aussi le mien. Et ce romantisme a occulté le fait que cette Chine d'aujourd'hui n'a rien à voir avec celle d'il y a seulement encore 20 ans.
Vous dénoncez les idiots utiles de la Chine en France qui sévissent toujours. De qui parlez-vous ?
Ben écoutez, il y a plusieurs espèces, si je puis dire, disons plusieurs formes d'action pour ce que j'appelle les idiots utiles. Et il y a ceux qui tout simplement sont sinolâtres, c'est-à-dire qu'ils restent devant cette mystification qu'est le régime chinois aujourd'hui. Ils restent adorateurs d'une Chine qu'ils en fait ils ne comprennent pas. Même ceux qui y vivent, souvent ils sont dans une espèce de bulle du fait qu'ils sont étrangers. Donc ils ne voient pas la Chine réelle. Donc ils font un constat qui est déformé. Alors cela, c'est une catégorie. Une autre, ce sont ceux qui le font en connaissance de cause pour tromper ceux à qui ils s'adressent parce qu'ils sont stipendiés par le régime.
La fin de votre livre est consacrée à l'avenir de Taïwan, où vous vous êtes rendu, vous avez interrogé diplomates et chercheurs. Alors de ces entretiens, qu'est-ce que vous retirez ? Est-ce que vous avez le sentiment que Taïwan est prêt à affronter une éventuelle invasion chinoise ?
La question est complexe, mais les Taïwanais observent la Chine depuis maintenant plus de 70 ans. C'est-à-dire depuis l'arrivée des communistes au pouvoir en 1949 à Pékin. Donc, ils ont eu le temps de réfléchir, de voir l'évolution de la Chine, de voir que ce continent chinois immense devient progressivement agressif et conquérant. Et donc, évidemment, cela nourrit une inquiétude qui d'ailleurs va croissante. Mais du fait de cette inquiétude, il se prépare, et il se prépare de longue date. De plus, les événements récents, et tout particulièrement l'agression russe en Ukraine, a été aussi pour eux un autre motif de préparatif. Donc, ils sont prêts. Alors, je ne dis pas qu'ils vont résister des années s'il y avait une agression provoquée par l'armée populaire de libération à Taïwan. Évidemment, on voit bien qu'il y a David et Goliath. Mais en même temps, il arrive parfois que ce soit David qui gagne. Et pourquoi David peut gagner? Parce que Taïwan n'est pas tout seul. Il y a depuis longtemps déjà les États-Unis. Son président actuel, Joe Biden, a dit par 4 fois, non pas une fois où on aurait pu penser que ma foi, il devient un peu sénile. Non, 4 fois que s'il y avait une tentative d'invasion de Taïwan, l'Amérique défendrait Taïwan. Alors, il n'a pas dit de quelle manière, on ne le dit jamais, face à un rival qui devient agressif. Mais là, donc, est un premier signal. Le deuxième, le Japon, lui aussi, qui est juste en face de la Chine, comprend très bien quelle est la nature de la Chine aujourd'hui. Donc, le Japon aussi, d'ailleurs, sur le plan militaire, a décidé de s'armer progressivement pour justement pouvoir éventuellement se confronter à la Chine s'il y avait une agression. Et le Japon, pour qui c'est un intérêt stratégique, Taïwan, a aussi dit qu'elle serait là en cas de conflit. Et il y a d'autres pays, il y a l'Australie, la Corée du Sud, évidemment l'Inde, et voilà.
Et vous-même, quel est votre sentiment? C'est l'inquiétude qui domine?
Moi, je pense que l'inquiétude, elle provient du fait que si d'aventure le président chinois Xi Jinping se sentait menacé à l'intérieur de son propre pouvoir, c'est-à-dire s'il se sentait contesté au sein du Parti communiste chinois, s'il avait le sentiment qu'il était en danger et qu'il pourrait perdre ce pouvoir, alors il pourrait s'engager dans une fuite en avant qui serait irrationnelle. Lui, qui est très rationnel, à la différence par exemple de M. Poutine, il pourrait prendre ce chemin aventuriste de déclencher un conflit, et c'est là mon inquiétude.
Pierre-Antoine Denet, merci.
Merci à vous.